Pour aborder cette rentrée avec élan, avec courage, avec espoir, nous proposons de penser au ciel, de réfléchir un peu à notre destinée éternelle en tant que chrétien. Alors ce matin, le texte qui va conduire nos pensées se trouve en Colossiens, chapitre 3. Et nous allons faire la lecture des versets 1 à 8. 1 à 7, plutôt. Colossiens 3, verset 1 à 7. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Voilà, ce passage nous pousse, nous invite à penser au ciel. Pourquoi penser au ciel? Vous connaissez peut-être cette histoire, je l'ai pas mal entendue en grandissant dans des églises. C'est une illustration préférée des pasteurs, je pense. Mais il s'agit de la nageuse qui a voulu traverser je crois que c'était la Manche, à la nage. Et elle était forte, donc elle a quasiment tout traversé. Mais c'était un jour de brouillard, un jour de couvert. Et donc, c'est fatigant. Et arrivée presque au bout, elle était accompagnée par une équipe en bateau et elle était trop fatiguée, elle devait abandonner. Et en fait, elle était à 500 mètres du rivage, mais avec le brouillard, elle le voyait pas. Un autre jour, elle a retenté, cette fois-ci un jour clair, et là, elle a réussi, parce qu'elle voyait le rivage. Et c'est ce que nous voulons aussi vivre parfois. Pour nous, le ciel, c'est un peu flou. Un peu brouillard pour nous dans nos esprits quand on pense à notre destination. Peut-être on est peu motivé à avancer vers ce ciel, mais on veut corriger ça. Dans ces quelques dimanches, nous pouvons réfléchir sur le ciel. C'est vrai, il y a un flou dans nos esprits puisque personne n'est allé pour revenir nous dire comment est le ciel, ce qu'est le ciel. Et en fait, une personne, si, l'a fait, c'est Jésus-Christ. Il a même dit un jour, il a dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors, s'il y a une personne qui peut nous dire comment c'est le ciel, c'est Jésus-Christ. Il est descendu dans notre monde pour nous raconter. Alors c'est lui que nous voulons écouter, puisqu'il connaît comment c'est, et à travers sa parole notamment, nous pouvons voir un peu plus clair à partir des éléments dans la Bible. Alors ce texte nous invite à le faire. Ce matin, pour aborder ce texte, je propose de poser plusieurs questions. Qu'est-ce que ce texte nous demande de faire? Ensuite, pourquoi? Et enfin, quel effet sur nous? Tout d'abord, donc, qu'est-ce que ce texte nous demande de faire? Eh bien, vous l'avez vu en versets 1 et 2. Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et ce mot « attachez-vous », c'est aussi pensez, réfléchissez, méditez, préoccupez-vous des choses d'en haut. Alors, c'est quoi les choses d'en haut? Mais ici, c'est contrasté avec les choses qui sont sur la terre, les choses terrestres. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit des choses célestes. Bien sûr, les choses d'en haut englobent beaucoup de choses, certainement. Ça englobe Dieu, toute sa personne et toute sa parole. Mais Paul précise, j'aime bien sa précision, un verset 1, « Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » L'image ici, Christ assis à la droite de Dieu, c'est l'image du trône. Le trône où il est monté suite à sa victoire, sa résurrection, d'où il règne. Donc c'est l'image du trône, l'image du palais. C'est le lieu où se trouve Jésus maintenant, c'est le ciel, c'est le lieu de son trône. Bien sûr, il y a de nombreuses expressions dans la Bible pour parler de cet endroit. On parle du ciel, on parle du paradis, on parle de là-haut, on parle d'être dans la gloire. Toutes ces choses, c'est notre effort en tant que chrétien de décrire un peu là où Christ est. Bien sûr, chacun est un peu limité, nous parlons du ciel. Le ciel, ce n'est pas même l'expression préférée de la Bible, parce que le ciel peut vouloir dire plusieurs choses. Le ciel, c'est le ciel que vous voyez, le ciel bleu ou pas, gris, en fonction du météo. Dans la Bible, le ciel, c'est aussi là où sont les étoiles. Donc, on dit là-haut, mais même là-haut, c'est... On est bien d'accord, si vous partez en fusée, vous n'allez pas heurter contre le trône de Dieu. Mais Dieu nous a aidés à comprendre en nous donnant ce vocabulaire là-haut, le paradis, pour évoquer sa présence. Ce que vous pouvez retenir donc, c'est lorsque les chrétiens parlent du ciel, nous avons en tête surtout là où Christ est. C'est ça qui nous importe, comme nous avons vu la semaine dernière. Le ciel pour nous, c'est là où Christ est. Et c'est pour ça qu'en disant le ciel, cela peut même inclure cette présentation que nous avons vue à la fin de la Bible en Apocalypse. Notre destinée éternelle, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parfois, quand nous disons le ciel, nous avons en tête même ça aussi, le jour où les cieux et la terre seront réconciliés enfin. Le jour où le trône de Dieu va descendre sur la terre, nous allons habiter avec Dieu dans sa présence, dans ce nouveau monde, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Nous venons de chanter « dans le ciel, vivra avec Jésus dans le ciel ». Nous pourrons ajouter une strophe qui ne serait pas faux. Sur la terre, vivra avec Jésus sur la terre. C'est là le bonheur éternel, si nous entendons par là, la nouvelle terre. Ce qui nous importe, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est là où Christ est. Pour nous, c'est ça le ciel. Et la Bible nous dit de penser à ces choses, à nous attacher à ces choses. Et c'est là où on est parfois embêté, parce qu'on dit, mais comment sera le ciel ? On a quelques images, quelques descriptions dans la Bible, mais comment imaginer l'inimaginable ? Comment se représenter quelque chose qui est indescriptible? C'est vrai qu'on ne sera, on sait pas comment ce sera. Il y a un verset qui dit l'oreille n'a pas entendu, l'œil n'a pas vu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais le verset suivant dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, nous les a révélées. Et donc, la Bible ne nous laisse pas complètement dans le flou par rapport au ciel. Bien sûr, Dieu ne nous dit pas tout, mais il nous a dit assez pour nous remplir de joie, d'un désir intense d'y être, et de cette reconnaissance au fond de nous-mêmes que c'est là où nous devrions être, nous appartenons à ce monde-là. Alors Dieu ne nous a pas dit tout, donc il ne faut pas se livrer à des vaines spéculations ou à des visions personnelles de ce que ça pourrait être, mais de penser, de réfléchir, de méditer sur les images que la Bible nous donne au sujet de là-haut, au sujet du ciel. Et puisque la Bible nous donne pas mal d'images, je pense que Dieu nous appelle à ce qu'on pourrait appeler une imagination sanctifiée. Utilisez votre imagination sanctifiée, guidée, éclairée par la parole. Et là, vous découvrez quelque chose de glorieux, de passionnant, de merveilleux. Pour certains, c'est vrai, leur conception du ciel, c'est un culte de dimanche qui dure à l'infini. Sauf qu'on ne serait pas assis sur des chaises, on va flotter sur les nuages. Mais déjà, cette conception peut-être vous est peu enviable. Vous trouvez peut-être déjà ce culte un peu long. Je sais qu'en Algérie, le culte durait 5 heures. Je trouvais ça un peu long. Si on venait me dire « ça va durer encore au siècle des siècles », mais non, la présentation du ciel est bien plus vaste, bien plus grande, bien plus merveilleuse que ça. Bien sûr, un culte de dimanche nous donne un aperçu parce que nous nous retrouvons dans la famille de Dieu. Nous avons l'occasion de chanter, de penser à Dieu, mais je peux vous garantir qu'au ciel, vous n'allez pas vous ennuyer. La Bible décrit quelque chose de passionnant, de merveilleux. Quelque chose qui répond aux aspirations, aux soifs de notre âme. Alors creusez un peu les images de la Bible quand vous lisez, réfléchissez, méditez, attachez-vous à ces choses, cherchez ces choses, ce que ça pourrait représenter. Un peu utilisez cette imagination sanctifiée que Dieu vous donne. Et c'est passionnant même. Quelques exemples, par exemple, vous vous souvenez, dans le prophète Ésaïe, chapitre 6, on lit souvent ces versets là où Ésaïe voit un peu le ciel, la gloire, et il voit les anges, les séraphins qui disent « Saint, 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 l'Éternel ». Et le premier verset dit, c'est l'aperçu que Ésaïe a du trône de Dieu. Ésaïe 6, verset 1, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple ». Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors déjà, on est dans un peu l'image, on parle des robes de Dieu. Depuis quand Dieu porte-t-il des vêtements? Mais certainement c'est pour nous enseigner quelque chose. Il s'agit des robes royales, donc on retrouve un peu l'image de Colossiens 3 où assis à la droite de Dieu, donc c'est le lieu de son trône, de son autorité, là où il règne avec puissance et sagesse et bonté et gloire. Mais le verset précise que les pans de sa robe remplissent tout le temple. Alors si rien que les pans de la robe remplissent tout le temple, je vous laisse imaginer le reste. Si quelqu'un débarque ici avec une robe dont les pans remplissent toute notre salle, là, on dépasse la réalité, mais c'est ce que Ésaïe voit. Donc, c'est grand, c'est merveilleux. Et puis, plus tard, Jean, dans l'évangile de Jean, dit que Ésaïe, à ce moment, voyait Jésus, voyait la gloire de Jésus. Puis d'autres versets disent que nous allons régner avec lui, nous sommes assis avec lui sur son trône. Mettez tout cela ensemble et vous avez quelque chose de merveilleux. Un collègue vous rabaisse, vous critique. Ce n'est pas une vaine pensée à ce moment. Ce n'est pas une pensée vaine de contempler Dieu sur son trône et de dire ça c'est mon Dieu, ça c'est ma place. Je peux être rabaissé par ce monde, mais ce trône très élevé, c'est aussi ma destinée. Une autre petite image peut-être qui interpelle les Français. On a lu la semaine dernière ces descriptions en Apocalypse de la Nouvelle Jérusalem. Encore une manière, des aspects imagés pour décrire cette éternité qui nous attend en tant que chrétiens. La Nouvelle Jérusalem qui évoque toute la beauté, toute la perfection, lorsque tout sera restauré. Lorsque le peuple de Dieu habite en paix avec Dieu et les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on parle d'une ville, parce que voilà, les êtres humains seront ensemble. Et puis on nous dit, c'est curieux, c'est des dimensions assez précises, même si tout ça c'est aussi très, très imagé, très symbolique certainement aussi, mais les dimensions précises de cette ville, on donne les dimensions de la muraille. Alors, si vous calculez un peu, ils disent que la muraille, c'est ce cube dont on a parlé. La muraille, ça fait 2000 km de haut. Donc, on est déjà assez haut comme muraille, de 2000 km, on dit que l'épaisseur de la muraille, c'est 65 mètres. D'accord? Donc un mur épais de 65 mètres et haut de 2000 km. Ça, c'est, donc on est dans des dimensions démesurées pour décrire cette ville. Il y a la place au ciel, je peux vous garantir, pour tout le monde qui veut y être. Alors, cette ville, comme à l'époque, il y a des portes de ville. Les anciennes villes avaient des portes, on entrait, on fermait, on ouvrait, on fonctionnait. Mais ces portes sont toujours ouvertes, dit le texte, dit la Bible, pour évoquer que voilà, il y aura plus de guerre, plus de problèmes d'insécurité, pour évoquer toute la paix, ce serait vraiment la ville de paix. Mais on va un peu plus loin, et le verset dit que chaque porte était d'une seule perle. Classe, d'où viennent les perles? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous rencontrez une de celles-là? Vous n'allez pas vous ennuyer. Cette semaine, au restaurant italien, on a commandé des huîtres. Il y avait 5 perles dans les huîtres. Il était tout content, le client, parce que ces perles valaient 2000 euros. Je suis très content pour lui, mais je suis encore plus content pour vous. C'est votre héritage, c'est votre destinée. Vous voyez un peu toutes ces images, bien sûr, ça nous dépasse. On a du mal à imaginer, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de la beauté, l'éclat, la splendeur qui vous attend. Bien sûr, tout cela, les perles n'allaient pas au ciel juste pour les perles, même s'ils sont grandes. Tout cela est le reflet de la valeur de Jésus que nous allons pouvoir découvrir et connaître. Et tout ça, on peut y penser déjà. C'est l'appel de Paul ici. On s'attache à ces choses déjà. Il y avait ce prédicateur du 18e siècle, que je cite parfois, Jonathan Edwards, figure du protestantisme. Lui était très doué pour raconter les horreurs de l'enfer dans ses messages. Mais aussi, il était encore plus fort pour parler des splendeurs du ciel. Il savait bien mélanger les deux, équilibrer les deux. Mais il était encore plus fort pour parler des splendeurs du ciel. Et une pensée qu'il a eue qui m'a marqué, c'est de se dire que Dieu est un être infini. Tous ses attributs sont infinis, une sagesse infinie, un amour infini. Donc, pour connaître ce Dieu, il va falloir une éternité, un temps infini, pour tout découvrir sur Dieu, sur ce Dieu qui est infini, et nous ne sommes pas infinis, nous. Et donc, sa pensée, c'est de dire, le ciel, on ne va jamais s'ennuyer, parce qu'il y aura toujours de nouvelles découvertes à faire sur la grandeur de Dieu, sur son amour, sur sa grâce, sur sa puissance, sur sa justice, toutes ces choses qui font que Dieu est un être éternel et infini. Il nous faudra une éternité de temps pour les découvrir, et ça serait merveilleux. Donc ce texte nous invite, et je vous invite, à chercher les choses d'en haut, vous attacher à ces choses, de les imaginer de temps en temps, pour mieux apprécier tout ce que Dieu vous offre. Pourquoi faire tout ça? On a vu ce que ce texte nous appelle à faire. Maintenant, pourquoi? Parce que Paul a quelques raisonnements qui nous livre ici, verset 1, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Et puis verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont à terre. » Verset 3, « Car, donc c'est la raison, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut. » Car votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Et dans ces versets, en fait, Paul évoque cette vérité chrétienne qui apparaît souvent dans la Bible, de notre union, l'union du croyant avec Christ. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est mort avec Christ, vous êtes mort, et qui est ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est l'union. Lorsque quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, il comprend qu'il il a été mis à mort avec Christ sur la croix et il est ressuscité avec Christ lors de sa résurrection. C'est pour ça que la Bible peut vous dire aux croyants, vous êtes assis dans les lieux célestes, déjà, maintenant. Donc la raison que le chrétien pense au ciel, c'est qu'il y est déjà sans y être encore. Ça, c'est la réalité que Paul nous fait découvrir. Le chrétien pense au ciel parce qu'il y est déjà sans y être encore. Il y est déjà, ça c'est une réalité spirituelle, invisible. C'est pour ça qu'il peut dire « votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». C'est vrai, c'est quelque chose de caché pour l'instant, que nous sommes unis, une telle union entre le chrétien et Christ, qu'il y est déjà avec lui au ciel, dans un sens. Et puis, le pas encore, c'est la phrase « quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire ». Là, ce serait plus caché, ce serait évident, apparition pour tout le monde. Pourquoi penser au ciel donc? Parce qu'on y est déjà, sans y être encore. Et ça, mes amis, c'est une réflexion puissante pour vous aider à mener la vie chrétienne, jour après jour. De se dire, finalement, dans un sens caché, mais dans un sens, je suis déjà au ciel, donc je vais me comporter comme tel. Alors, je vais aimer les choses qu'on aime au ciel. Qu'est-ce qu'on aime au ciel? On aime Jésus-Christ, on aime sa gloire, on aime son œuvre. Et puis, puisque j'y suis déjà en quelque sorte, nous avons envie maintenant de faire des choses qu'on fera pour l'éternité. Qu'est-ce que nous ferons pendant l'éternité? Ben, nous allons dire l'amour de Dieu comme nous allons chanter dans un cantique. Alors disons-le, aujourd'hui nous allons aimer le peuple de Dieu. Alors, commençons maintenant. Nous allons servir Dieu pour l'éternité. Alors commençons maintenant. Ça c'est la réflexion puissante de ces versets. Si vous êtes ressuscité avec Christ, vivez comme tel. C'est fort de pouvoir dire le ciel, c'est chez moi. Ici, je suis étranger, exilé. Le ciel, c'est ma patrie, c'est ma demeure. Le ciel, c'est chez moi. Moi, je sais quand je ne suis pas chez moi, que je suis en voyage, je pense tous les jours à chez moi. C'est là où il y a ma famille, mon épouse, chez moi, quoi. Et on y pense. Alors, le ciel, c'est vous êtes avec Christ, c'est votre chez-vous. Donc, vous y pensez. C'est là où est votre cœur, c'est là où est votre vie. J'aime bien ce verset 4. C'est tellement fort, ces trois mots. Quand Christ, votre vie. Ces trois mots, c'est Christ, votre vie. Il est au ciel, donc votre vie est au ciel. Vous êtes avec Christ. Christ, votre vie. Parfois, on entend des gens parler d'une personne en disant « sa vie, c'est son travail » ou bien « sa vie, c'est sa famille » ou « sa vie, c'est le sport » même dans l'Église, « sa vie, c'est son ministère ». Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Quand on dit ça de quelqu'un, « sa vie, c'est son travail ». Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Ce qu'on veut dire, c'est, par cette expression, c'est « voilà, c'est sa raison d'être ». C'est son identité, c'est sa manière de se valoriser, c'est sa manière de paraître bien. La chose que, quand on dit « sa vie, c'est son travail », souvent c'est sur un ton de reproche. « Sa vie, c'est le sport ». C'est sur un ton de reproche parce qu'on sait au fond de nous-mêmes que ces choses, le travail, le sport, ce sont des choses passagères. C'est des choses qui ne peuvent pas porter le poids de notre éternité, de notre identité. Alors si on mise tout sur les choses passagères, éphémères, forcément on va faire du mal à soi-même et mal aux autres. Et donc c'est pour ça qu'on reproche des gens. Sa vie, c'est le travail. Sa vie, c'est le sport. Mais ici, le chrétien, ce que Paul vous dit, votre vie, c'est Christ. Christ, votre vie. Ça veut dire que votre identité, votre manière de vous valoriser, votre manière de paraître bien, c'est quoi? C'est Christ. Et vous avez cette promesse qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous savez ce que cela veut dire? Vous allez paraître avec lui dans la gloire. Vous allez partager sa gloire. Ça veut dire que toute la gloire, toute la réputation, toute la réussite que Jésus mérite, il le partage avec vous. Il vous fait participer avec lui. C'est comme il dit, viens avec moi sur le podium. J'ai ma trophée, mais on va le tenir ensemble. C'est ça, paraître avec lui dans la gloire. C'est être glorifié avec lui. Alors, tous ces gens, en fond, c'est ce que les gens cherchent par le travail, par le sport, par la reconnaissance, ce qu'ils veulent. Ils veulent cette reconnaissance, cette réussite. Et Jésus seul l'offre. Tout le reste est éphémère, des choses sur la terre. Alors, nous pouvons penser à Christ, notre vie. Donc, pourquoi penser au ciel? C'est parce qu'on y est déjà, en quelque sorte, sans y être encore. Alors, enfin, quel effet sur nous? Ça, c'est les versets suivants, verset 5. Faites donc, puisque tout ça est vrai, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. L'effet sur nous, c'est de faire mourir ce qui, donc, terrestre en nous. C'est-à-dire cet amour pour les choses célestes produit un dégoût pour les choses terrestres. Mais vous avez bien vu que les choses terrestres ici, c'est pas les arbres, les montagnes, les rivières, les gens. C'est pas ça qu'il faut faire mourir. Ce qui est terrestre ici, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Ça, c'est fort aussi. Toutes ces choses que Dieu ne peut pas supporter dans son ciel, eh bien, moi, je ne veux pas les supporter dans ma vie. Toutes ces choses que Dieu ne tolère pas dans sa présence, tellement il est pur, je ne veux pas les tolérer dans ma vie. Et penser au ciel m'aide, donne cet effet presque naturel et automatique de vouloir faire mourir, bannir ces choses, tout comme Dieu doit bannir le péché de sa présence, je veux le bannir de ma vie. Il nous rappelle, verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Alors c'est vrai, penser au ciel, c'est aussi penser à l'enfer. Les deux vérités vont ensemble parfois. Pour beaucoup, la solution, c'est de penser ni à l'un ni à l'autre. On n'aime pas l'enfer, on ne va pas penser à l'enfer, mais puisque ça va avec le ciel, on ne va pas ni penser ni à l'enfer ni au ciel. John Lennon nous a proposé justement d'imaginer un monde sans ciel et sans enfer. Au-dessus de nos têtes, juste le ciel bleu, rien de plus. Pas ces choses d'en haut. Et sous nos pieds, rien de plus. C'était son appel. Imaginez. Pour lui, c'était la solution. On imagine un tel monde, sans ciel, sans enfer, et là, certainement, tout le monde vivrait en paix. Alors, imaginons un instant un monde sans ciel, sans enfer. Dans ce monde-là, la débauche, les mauvais désirs, l'impureté, les passions, la cupidité, la méchanceté, la colère, dans ce monde-là, ces choses ne sont ni mieux ni pire que la bonté, la pureté, l'amour, puisqu'il n'y a aucun jugement, aucune justice, aucun Dieu qui exerce sa juste colère contre le mal. Donc si vraiment on pousse à bout cette imagination-là, un monde sans en haut, sans le ciel, sans l'enfer, vous voyez qu'il n'y a aucune raison de condamner tel acte ou féliciter un autre. Mais en réalité, peu veulent vivre dans un tel monde. Alors même si l'idée de l'enfer nous rebute, c'est parce qu'il y a un Dieu juste qui veut éradiquer tout ce qui détruit le monde et nos vies. Et donc c'est pour ça que la colère de Dieu vient sur ces choses. Mais le monde que Dieu a imaginé pour nous est beaucoup mieux. Lui, il a imaginé, il a trouvé une manière de nous délivrer de l'enfer, de nous délivrer de sa colère. Alors, certainement, penser aux choses d'en haut, c'est aussi penser à la manière que Jésus a quitté le ciel, ce trône là-haut, pour descendre ici-bas, sur la terre, pour nous sauver. C'est pour ça qu'il a fait tout ce que nous méritons. Toute cette colère que nous méritons, il a pris. Et tout ce que lui, il mérite, il nous le donne. Toute sa réussite, toute sa gloire, l'honneur, il nous le donne. Dans le livre d'Apocalypse, à la fin, vers la fin de la Bible, Jésus, voici encore une image que vous pouvez méditer cette semaine si vous vous ennuyez. Jésus dit à son église fidèle, à celui qui vaincra, à une de ses églises, il a dit « Je vous donnerai l'étoile du matin ». Si quelqu'un venait vous dire « Tiens, j'ai un cadeau que j'aimerais te remettre », c'est le soleil. Je peux comprendre que vous dites « Qu'est-ce que je vais faire avec le soleil ?» C'est un peu comme Obélix qui offre des menhirs aux gens. C'est un peu trop. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Alors, c'est possible, vous dites « Je préfère un smartphone que l'étoile brillante du matin aujourd'hui. » Mais c'est parce que vous n'avez pas saisi l'image, l'éclat dans cette offre. Et je vous garantis que vous n'allez pas dire ça un jour où vous voyez ce que cela représente. Un des derniers versets de la Bible, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis l'étoile brillante du matin ». Et il vous donne cette étoile. Difficile pour moi et pour les hommes de décrire de telles choses, mais quelque part cela veut dire que toutes nos ténèbres, toute notre honte, toute notre condamnation, il a encaissé sur lui à la croix. Et en échange, il nous donne un nouveau jour, il nous donne l'aurore, il nous donne l'étoile brillante du matin. Et c'est lui-même, il se donne à nous. Alors, essayez d'imaginer le meilleur lever du soleil que vous puissiez concevoir, que vous avez vu dans notre vie. Votre destinée, en quelque sorte, c'est non seulement de la voir, ce serait votre cadeau, mais vous le serez en quelque sorte. Vous l'aurez, toute la beauté, tout l'éclat, toute la splendeur qu'on peut imaginer. Vous allez l'être en Jésus-Christ, puisque lui va briller et vous allez briller avec lui.